I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est notre session du mardi où nous revenons sur une ressortie en salle ou en Blu-ray et où mes amis critiques donnent toute l'ampleur de leur talent en historiographie cinématographique et en analyse structurelle comparée. C'est ce que vous allez faire, Alexis, rassure-moi.
On va faire ça.
Ouais.
Yes.
Ouais.
Yes. Vous allez utiliser des mots avec de plus de 3 syllabes ou pas?
Oui,
j'en ai un. Nonobstant le fait que toutes choses étant égales au jour d'aujourd'hui,
voilà, par évidemment. Exemple.
Arthur, un mot de 3 syllabes, s'il te plaît.
Qui parle d'Hiroshima, mon amour? Bah, travelling.
Et hop, travelling, ça fait 4 syllabes. Et merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup pour cet étalement de culture cinématographique. Tu me tues, tu me fais du bien. Oui, tout à fait. Retour. L'année, c'est 1959. C'est l'année de ce film. C'est l'année du festival. Il a été sélectionné. Mais il a divisé, anti-américain, disait-il. Ce film, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre deux villes, Nevers en France, Hiroshima au Japon. Tu me tues, tu me fais du bien, et tu n'as rien vu à Hiroshima.
La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima.
Jamais. Ça ne s'arrête à Hiroshima.
Je me souviens l'avoir entendu avant. Avant, pendant que nous nous aimions. Pendant notre bonheur.
Hiroshima, mon amour, d'Alain René avec Emmanuel Riva et Eiji Okada sur un scénario et une histoire de Marguerite Duras. Ça va rester d'ailleurs l'un de ses textes les plus célèbres, ressorti en DVD copie restaurée chez Tamasa. Chef-d'œuvre absolu pour certains comme Godard qui dira « Je me souviens avoir été très jaloux de Hiroshima, mon amour. Je me disais « ça c'est bien et ça nous a échappé, on n'a pas de contrôle là-dessus ». La même chose avec l'accent de Jean-Luc Godard par Simon Rio.
Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est très bien, mais ça nous l'a échappé. Ça nous l'a échappé, Hiroshima, mon amour. Et Marguerite, comme disait Desproges, elle ne fait pas que dire des conneries, elle en écrit des fois.
Elle en filme parfois. Néanmoins, Hiroshima, mon amour, qui est un film important, puisque c'est l'un des films qui va lancer la nouvelle vague au cinéma. Alexis?
Alors, il faut revenir un petit peu là-dessus parce que la jeunesse de la nouvelle vague est quand même une période un peu complexe dans l'histoire du cinéma français. Traditionnellement, on attribue à une certaine frange des cahiers du cinéma, des rédacteurs des cahiers du cinéma. Donc, citons-en quelques-uns, évidemment, François Truffaut, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Éric Rohmer. Théoriquement, Serge Danet avant eux, et même André Bazin, sûrement encore un petit peu. Mais en gros, on attribue à cette génération donc, de jeunes critiques d'avoir à un moment, par geste de rébellion, par geste d'émancipation, créer un nouveau cinéma français qui s'opposait au cinéma d'avant, qu'on pourrait qualifier de classicisme français, de qualité française, pour reprendre le terme consacré. Et ce cinéma, eh ben, il a beaucoup choqué, il a beaucoup travaillé le monde de la critique, mais aussi les spectateurs, parce que c'est un cinéma qui sort des studios pour aller dans le réel, pour aller dans le vrai, dans la vérité des décors, dans la vérité des sentiments, dans la vérité des personnages, et dans une certaine modernité documentaire. Il y a beaucoup de choses dans les films de la Nouvelle Vague, notamment de cette époque-là, donc la fin des années 50, début des années 60, qui sont des éléments de pur documentaire, des figurants qui ne sont pas des figurants, qui sont juste des gens qui sont passés dans le plan, par exemple.
On peut juste dire que le film précédent d'Alain René, c'est Nuit et brouillard, qui est un film documentaire sur la Shoah, qui va être un film documentaire extrêmement choc avant le Shoah de Claude Lanzmann, et qui va être l'un des premiers films à compiler des extraits de films de ce qui s'est passé et de la solution finale dans les camps de concentration.
Alors, l'un des premiers films français. Parce que
bien sûr.
Il y a eu une petite génération de cinéastes américains de l'âge d'or qui ont été mandatés par l'armée pour aller filmer l'effort de guerre. Et il y en a un de mémoire, c'est George Stevens, qui a filmé notamment la libération du camp de Dachau et qui est revenu avec des images qu'il a gardées sous scellé quasiment toute sa vie parce que c'est des images qui sont absolument terrifiantes.
Mais qui arrivent au grand public. C'est ça que je suis en train de dire.
Nuit et brouillard arrive au grand public et c'est un film choc, effectivement. Il faut savoir que, avant de réaliser Hiroshima, mon amour, qui est donc officiellement son premier long métrage pour le cinéma en 59, René en avait déjà réalisé un qui s'appelait Ouvert pour cause d'inventaire. Et ce film-là fait partie des très nombreux films, et ça les auditeurs et auditrices l'ignorent peut-être, mais fait partie des très nombreux films qu'on estime perdus. Aujourd'hui, il est impossible de voir Ouvert pour cause d'inventaire, tout simplement parce qu'on n'a jamais réussi à mettre la main sur une copie de ce film. Donc le premier film consacré d'Alain René, c'est Hiroshima Mon Amour, en fait c'est son deuxième long métrage. Mais donc René a fait un parcours documentaire, il a réalisé beaucoup de courts documentaires dont Nuit et brouillard, qui est je pense le plus emblématique, et qui témoigne déjà dans l'approche de son sujet d'une certaine modernité et d'une certaine poésie qui contraste complètement avec le cinéma institutionnel de l'époque. Et pour resituer vite fait René, on pourrait arguer effectivement que René fait partie de la nouvelle vague, en tout cas qu'il a initié
au cinéma.
Il faut préciser que René ne fait pas véritablement partie de la nouvelle vague. René fait partie d'un courant de cinéastes qui est le courant de la rive gauche, qu'on a appelé a posteriori rive gauche, dans lequel on compte par exemple Agnès Varda et Chris Marker. Chris Marker étant un collaborateur de René au début.
Ils ont fait quelques films ensemble.
Et donc René, il arrive avec ce film-là qui est effectivement une espèce de révolution esthétique et narrative qui à l'époque fera grand bruit, tout particulièrement auprès des critiques des cahiers du cinéma, dont Jean-Luc Godard, donc la boucle est bouclée.
Et au Festival de Cannes, où il y a quelque chose, alors, où en fait le film doit être en compétition et placé hors compétition parce que le film critique la bombe nucléaire et très anti-américain. On est en 59, on n'est pas si loin de la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine reconstruction. Simon.
Et c'est plus que pas loin de la Seconde Guerre mondiale, un truc qu'on oublie, voire même qu'on ne sait pas, concernant l'après-Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, qui est toujours présenté comme un plan de soutien économique des Américains à l'Europe et donc à la France, le plan Marshall, il contient un volet sur le cinéma. Et donc, dans le plan Marshall, il y a notamment le fait qu'il ne va plus y avoir de quotas en France sur les films américains, que les films américains vont prendre le pouvoir sur les salles, et il va justement y avoir, entre autres, du fait de la nouvelle vague et de ceux qui vont se battre pour l'avènement de la Cinémathèque en France, le fait de dire non, nous on va créer le CNC, on va créer des systèmes de financement pour que le plan Marshall ne détruise pas le cinéma français. Parenthèse, le fait qu'il y ait eu ces combats-là en France fait qu'il y a eu un cinéma français qui a survécu, là où dans l'essentiel de l'Europe, le cinéma a disparu. Le cinéma local, je veux dire régional, a disparu. Et donc, Hiroshima, mon amour, s'inscrit aussi dans la continuité de ça. Alors attention, comme on l'a dit, on est en 61, pas en 47, mais c'est une revendication, c'est un combat contre une forme de représentation aussi, et de la guerre et de ses conséquences.
Il faut dire, pour celles et ceux qui nous écoutent, que Hiroshima, mon amour, est un film qui a fait scandale pour son érotisme. C'est un film qui a fait scandale et auquel il faut être préparé, puisque la première partie du film est documentaire. Et c'est un film qui mélange des images documentaires extrêmement dures. Il faut le dire, hein, le début d'Hiroshima dans l'amour,
sur les conséquences du bombardement d'Hiroshima et de
la bombe nucléaire, et donc où on voit littéralement des personnes, des enfants défigurés par des cancers, et où le film va jouer sur un glissement progressif entre toute une première partie avec une voix off sur le texte de Marguerite Duras, pour glisser ensuite vers la fiction qui raconte l'histoire d'amour entre cette femme française qui elle-même a une histoire particulière vis-à-vis de la Seconde Guerre mondiale, et ce dignitaire japonais qui, lui aussi, a une histoire particulière, puisque je vous rappelle que le Japon était du côté de l'Axe et fait partie des perdants, ou a été allié à l'Allemagne nazie, à l'Italie fasciste de Mussolini. Arthur.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des recherches sur le film, j'ai appris que suite à Nuit et brouillard, René avait dit qu'il ne voulait plus faire de film qui parle de la guerre. Et que, pour moi, le parti pris du film, c'est que justement, c'est un film qui essaye de ne pas parler de la guerre. Et une des manières de le faire, c'est justement d'utiliser des images d'archives pour le faire au début, et ensuite de ne parler du fait qu'on ne peut pas parler d'Hiroshima. Et que tout le film, en fait, c'est ça. C'est un film sur la mémoire, sur le fait que l'amour est plus fort que la mort, mais aussi sur on ne peut pas parler de la guerre. Et ça vient accompagner, je pense, le geste d'un cinéaste qui a fait ce qu'il a fait de plus fort sur ça avec Nuit et brouillard, je pense.
Oui, il y a un truc que je trouve passionnant, peut-être pour ceux qui nous écouteraient, qui se diraient, mais attends, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un morceau d'histoire? Est-ce que c'est un truc un peu intello que je dois me taper? Dites-vous qu'il y a un film culte, qui a complètement pompé la structure et l'esprit de Hiroshima, mon amour, c'est District 9. District 9, c'est un film qui commence... Non ? Tu fais pas cette tête, Nicolas ? Oh, qui commence comme un faux documentaire, comme un faux documentaire,
District
sur une
9,
période...
Le truc avec les gros cafards.
De Neil Blomkamp, ouais.
Mais c'est un film qui commence en found footage, comme un faux documentaire, sur un moment traumatique pour une ville d'Afrique du Sud, qui va petit à petit versé dans la fiction. Et si, si, et Peter Jackson l'a dit et l'a répété, parce que c'est lui qui produit le film, et que justement, ce glissement du côté documentaire extrêmement brut, extrêmement violent, vers quelque chose qui va aller vers la poésie et l'évocation, il le tire de là. Et ça, justement, pour des gens qui ne sauraient pas du tout de quel film on parle, c'est une porte d'entrée qui peut être assez intéressante. Après, moi, pour moi, il y a un intérêt et un problème au film. C'est à la fois une pièce de musée, parce que c'est pas du tout un film de la nouvelle vague, esthétiquement, philosophiquement, pas du tout.
Alors, esthétiquement, je t'arrête.
Oh, oui,
esthétiquement, il y a des vrais parallèles. Bien sûr que si. Il y a des vrais parallèles, notamment la captation du son direct avec les aléas que ça engendre à l'époque.
Le fond large, les travelling, le rapport à l'image. Le fond de la nouvelle vague, c'est on sort des studios et on va réhabiliter un cinéma commercial américain qui n'est pas perçu comme un cinéma d'auteur pour en faire une matière première. Donc oui. on ne peut pas dire qu'Hiroshima, mon amour, aille là-dedans. C'est pas une question de valeur ou de pas de valeur. C'est que chronologiquement, il s'inscrit dans la nouvelle vague pour certaines raisons, comme tu l'as dit, des raisons d'emploi technique.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a des passerelles. Le simple fait d'avoir Emmanuel Riva au casting, qui est une égérie de la nouvelle vague, bien sûr, ça fait sens également. Mais à mon sens, s'il faut regarder Hiroshima, mon amour, et c'est encore une fois, et sa force et sa limite, c'est comme un travail qui n'est pas encore complètement abouti de René, qui est un cinéaste borgésien. C'est-à-dire un cinéaste qui a un lien avec Borges, l'auteur Borges, et donc avec l'idée de culture, littérature, bibliothèque qui devient un labyrinthe de référence, un labyrinthe de sens, et donc non plus une espèce de somme d'érudition, mais une idée d'une certaine sensorialité de la culture. Et ça c'est extrêmement intéressant. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il est allié sur ce film avec Marguerite Duras, qui est une autrice que je peux trouver passionnante en littérature, que je trouve indigente quand elle essaye de marier littérature avec d'autres arts, quand elle essaye de se marier au cinéma ou quand elle a essayé de se marier au documentaire et elle s'est retrouvée coupable, forcément coupable.
Vous irez chercher ces références, on ne va pas rentrer là-dedans sinon on en a pour 4 heures. Sophie, sur Hiroshima, mon amour, comment est-ce qu'on... Enfin, la question en fait, qu'on peut poser, parce que c'est un cinéma qui peut être qualifié comme aujourd'hui de cinéma classique et pour autant... c'est l'inverse du cinéma classique, c'est-à-dire que c'est un cinéma qui prend le contre-pied du classicisme. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on voit aujourd'hui, quand on a 20, 25 ans, Hiroshima, mon amour, sans le regarder comme une vieillerie pleine de poussière, quelles sont les pistes qui permettent de comprendre pourquoi ce film a été important, un tournant dans une certaine histoire du cinéma français.
Alors, je viens de le découvrir, le film. Je l'ai découvert il y a quelques jours et c'est triste. J'ai des grands manques à ma culture cinématographique française, vu que c'était le premier Alain René que je voyais. Et je connaissais le texte de Marguerite Duras que j'avais un peu étudié en fac de lettres. Et ça a été d'ailleurs assez intéressant d'apprendre qu'en fait, les écrits étaient sortis du coup après le film.
Bien sûr.
C'est une transposition, mais je l'ai découvert là récemment parce que je connaissais le texte et pas le film. C'était assez... parce qu'on n'avait pas du tout parlé du film à ce moment-là. Moi, ce qui me fascine en regardant ce film que je trouve... pas toujours très agréable. Moi, je trouve que la première partie, qui est ce mélange d'images documentaires et d'extraits d'un autre film qui s'appelle Hiroshima, qui est sorti en 1953, avec cette voix, je trouve que c'est presque...
Avec la voix off par-dessus, je
la trouve presque trop muséale à mon goût. Il y a quelque chose de la non-narration qui est très perturbante et ne sachant quasiment rien de la forme du film sur sa globalité, je me dis si c'est tout le temps comme ça, ça va être compliqué à regarder. Et finalement, la modernité arrive après et plutôt que modernité, j'ai envie de dire le côté intemporel du film se dégage pour moi de ce personnage féminin qui a une sexualité beaucoup plus libre, de ce rapport
à l'érotisme. Sophie, l'érotisme a vraiment beaucoup beaucoup choqué
c'est
à l'époque.
C'est ça.
Hein.
Et en fait, l'érotisme, pourquoi il est intéressant dans ce film-là en particulier, c'est que Si on prend le titre, Hiroshima, mon amour, il est antithétique ou oxymorique, c'est-à-dire qu'on va mélanger l'amour, la tendresse, quelque chose d'un sentiment primaire doux et une image qui nous a marqué. C'est-à-dire que Hiroshima, en soi, ce n'est plus associé qu'à la ville, c'est associé à l'horreur. Donc en fait, on va prendre deux concepts qu'on va mêler. En fait, en termes d'écriture, rien que le titre, ça peut être analysé pendant 4 heures. Et c'est que ce soit sur mon amour qui s'adresse à quelqu'un, Hiroshima qui s'adresse à tout le monde. C'est fascinant rien que le titre. Et là où, la démarche du cinéaste est très intéressante, c'est qu'on va sans cesse nous délocaliser. On a ce personnage français qui parle avec un japonais qui parle un français certes très lettré, mais malgré tout un peu approximatif. On se dit qu'il y a une barrière de la langue que le film ne nous fait jamais sentir. Elle va lui parler d'une guerre qu'il ne connaît pas.
Qui est la Seconde Guerre mondiale. Laquelle elle a une histoire particulière.
Exactement, qui va elle-même venir contrarier sa sensualité, sa sexualité, sa féminité. Et notamment, lui qui va lui dire que même si elle est présente géographiquement, il ne pourra jamais... En fait, le film parle que d'incompréhension, comme le titre est une oxymore.
Arthur, j'ai des petites anecdotes, utiles ou pas, par rapport à ce que vient de dire Sophie sur le dialecte saccadé de l'acteur Eiji Okada. Il se trouve qu'il ne parlait pas du tout français. Et il a appris toutes ses lignes par cœur. Et c'est ça qui explique qu'il a un phrasé, justement, et que du coup, il y a une espèce de non-fluidité dans les échanges, et c'est volontaire un peu.
Parce qu'il l'a appris en phonétique.
Oui, c'est ça, il l'a appris en phonétique.
Il met sur des phonèmes français l'accent tonique japonais.
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
mais ça donne...
J'ai une passion pour Marguerite Duras, j'ai une passion pour ce film, j'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. J'ai une passion pour ce cinéma d'Alain René, et pour ce que Hiroshima, mon amour, va ouvrir dans un cinéma qui va exister sur une fenêtre temporelle extrêmement courte en lien avec le nouveau roman, c'est-à-dire en lien avec une nouvelle forme de narration qui va complètement casser les codes du roman classique, du roman bourgeois, du roman balzacien ou même du roman prolétaire de Zola, et qui va dire qu'à un moment donné, on déconstruit la façon de prononcer, de raconter une histoire et où on commence à être à la fois dans des narrations et dans des voix intérieures. Moi, je trouve que, on pourra en reparler d'ailleurs, et j'espère... à un autre moment, mais l'année dernière à Marianne Bad, qui est le film suivant d'Alain René,
ouais, qui sort en 61.
Qui est une adaptation d'Alain Robbe-Grillet cette fois-ci, qui est un autre ponte du nouveau roman.
Donc il est même considéré comme son créateur, et son pape.
Le père est peut-être, mais en même temps son tâcheron, c'est-à-dire que c'est le truc curieux avec René, c'est-à-dire que...
Bah, c'est la particularité du nouveau roman, c'est très bien, mais c'est nul.
Non, mais c'est pas vrai, Duras c'est merveilleux, Nathalie Zarraud c'est merveilleux, Claude Simon c'est merveilleux, c'est juste que Alain René qui l'a initié et n'en a pas fait forcément les meilleurs romans.
Alain Robbe-Grillet, tu veux dire.
Alain Robbe-Grillet, excuse-moi.
Alors, juste, l'année dernière à Marianne Bad, je l'ai découvert il y a quelques jours, je l'avais jamais vu. J'ai rien compris.
Mais peu importe.
C'est incroyable.
Mais c'est incroyable.
Je ne sais pas qui dit la vérité ou pas.
Il y a un jeu auquel je ne perds jamais.
Je n'ai rien compris. C'était incroyable.
Non, mais je veux dire, voilà. Ces films-là fondent tout un cinéma qui va diffuser autant à l'Est qu'à l'Ouest, parce que Bellatar s'en réclame à peu près autant que Lynch ou que Cazavetes. Enfin, je veux dire, c'était une nouvelle façon. Non, mais c'était une nouvelle façon de faire du cinéma et qui a radicalement transformer les codes de la narration cinématographique et en tout cas, et dans le roman et dans le cinéma, la façon de raconter des histoires. D'un seul coup, on n'était plus dans de la narration linéaire, dans une narration considérée comme une narration bourgeoise. Il fallait casser les codes de l'histoire et aller vers quelque chose de plus impressionniste, de plus surréaliste. On est exactement à cette époque-là, en termes de mouvement artistique, un peu après. Mais enfin, je veux dire, le cinéma s'emplit de ça et il commence à devenir du cinéma qui louche du côté du rêve, du cauchemar, de l'intemporalité, de l'incorporalité, et qui commence à arriver vers une forme de cinéma fantastique à la française, quoi.
Absolument. Et si j'étais un troll, je dirais que si vous avez envie de voir ça en bien, faut lire William Burroughs. Mais comme je suis pas un troll, je vais pas le dire. Non, tout simplement. Et alors là, pour le coup, pas du tout pour troller. Ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est que aussi bien Hiroshima, mon amour, que l'année dernière Marianne Bad, sont effectivement des actes de naissance d'un geste cinématographique passionnant. Et là, il faut qu'on parle un peu d'Alain René.
Oui, on peut parler de Chris Marker aussi, hein, parce que...
Comme on parle d'Alain René, quand on parle d'un film d'Alain René, développons un petit peu autour de cette figure, parce que c'est une figure fondamentale du cinéma français. Fondamentale, matricielle, parce que tout simplement...
Séminale, j'avais envie de dire.
Oh, j'aime bien quand tu dis ça.
Mais tout simplement, Alain René, je parlais de Borges tout à l'heure, va aller à la fois vers une espèce de, d'hyperculture du cinéma et de ses formes et de la réflexion autour desdites formes, et en même temps vers un espèce de jeu extrêmement ludique, immédiatement accessible. On connaît la chanson, c'est également Alain René.
Et si vous voulez aller... Smoking, c'est Alain René.
Voilà, et si vous voulez aller dans sa veine,
c'est la des plus... jeux de sa forme.
Ça, c'est
des...
ça, c'est les films de sa fin de carrière. Donc,
fin de carrière, c'est 2014. Hein. Il a tourné son dernier film, Aimer, boire et chanter, l'année de sa mort.
D'accord, voilà. Mais on et connaît et la chanson, c'est fin des 90. Là, on parle d'Hiroshima en amour, 1961.
C'est intéressant parce que Alain René a cherché à renouveler les formes de manière folle.
Si vous voulez aller vers ce qui me semble. Et c'est pour ça que je pose une limite sur l'année dernière Marianne Bad, aussi bien que sur Hiroshima, mon amour. Si vous voulez aller vers cette forme-là, la pureté et le génie de cette forme de création, de transgression, et encore une fois, de bibliothèque borgésienne, il faut aller voir Providence dans l'Arène, qui est, à mon sens, le moment où cette forme-là arrive à un niveau de maturité et de génie indiscutable. Et immense, et surtout qui est purement le cinéma d'Alain René. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dirais, Hiroshima, mon amour, évidemment, il faut le regarder. La dernière Marianne Bad, évidemment, il faut le regarder. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Sophie, qui parlait de pièces muséales. C'est fondamental. Il faut l'avoir vu si on se passionne pour ce que c'est que le médium cinéma. Néanmoins, il me semble que ce sont des créations et des œuvres qui ont pour elles d'avoir révolutionné, sans pour autant avoir forcément traversé l'époque, alors qu'un Providence, là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est intemporel et génial.
Alors, c'est rigolo parce que le film, en le regardant, moi, je ne pouvais pas m'empêcher de voir l'influence qu'il pouvait avoir. Et j'y ai pensé, en le regardant, à deux films. Un où j'ai vu une vraie influence formelle qui est sur In the Mood for Love, qui me semble plus qu'évidente. Et après, de la citation pure, parce que Saint-Omer cite... directement Hiroshima, mon amour.
Saint-Omer d'Alice Diop, qui a été un des grands films français de cette année, primé à Venise.
C'est ça. Et on en parle encore aujourd'hui comme d'une référence, donc soit formelle avec Wong Kar-wai. Encore une fois, peut-être que je projette, mais il y a des plans qui sont quasi en termes de cadrage, un peu filmé en dessous, avec une histoire d'amour où l'un marche devant l'autre. Enfin, franchement, je... Bon, mais bon, on sait jamais. Mais il y a de la citation pure encore aujourd'hui chez des cinéastes que ça a inspiré sur la condition de la femme et ce que cette image de femme forte et contrariée peut représenter, ce qui est un des sujets d'Alice Diop dans Saint-Omer. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de voir comment le film, aussi compliqué et complexe soit-il, puisse avoir des influences jusqu'à l'année dernière de manière très frontale.
Mais il faut peut-être dire quelque chose aussi d'important, Alexis, en termes d'histoire du cinéma, c'est que Hiroshima, mon amour, non seulement par l'agrégation de ces images documentaires et au contraire d'un cinéma fictionnel extraordinairement travaillé, va définir et va avoir la volonté formaliste de transformer les codes de la façon dont on filme les scènes, dont on filme les acteurs. Enfin, il y a une intentionnalité chez René immédiatement pour ce qui est son deuxième film, même si on n'a pas la chance de pouvoir voir le premier, qui va faire immédiatement école et qui va ouvrir et qui va changer la manière de faire du cinéma. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un point de bascule dans l'histoire du cinéma en France et ensuite globalement dans le monde, parce que ça va infuser partout. Quoi.
Mais en fait, alors, histoire que les auditeurs et auditrices puissent peut-être avoir une porte d'entrée un petit peu plus évidente et un peu plus facile vers ces films-là, vers les premiers films d'Alain René et par extension vers le nouveau cinéma français et européen qui émerge entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60, grosso modo, donc les différentes nouvelles vagues nationales. Il faut bien comprendre que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont vu des films, par exemple, du Nouvel Hollywood, qui ont vu des films de Michael Cimino, de Francis Ford Coppola, de Martin Scorsese, qui est peut-être l'auteur le plus emblématique du Nouvel Hollywood, parce que Spielberg et Lucas n'en font pas partie. Mais ces cinéastes-là ont vu ces films-là. Ils les ont vus, ces films-là. Et ces films ont eu un impact considérable sur leur manière d'envisager le cinéma, puisque précisément, et c'est vrai qu'aujourd'hui, rétrospectivement, c'est un peu difficile à visualiser, mais avant Hiroshima, mon amour, avant l'année dernière à Marianne Bad et avant les différentes nouvelles propositions de cinéma, il y a tout un pan de l'expression cinématographique qui n'existe pas matériellement, puisqu'il n'a pas été exploré. Et donc ces cinéastes-là, Alain René et compagnie, sont des cinéastes pionniers. Voir Hiroshima, mon amour, c'est voir un geste de cinéma qui n'a pas de précédent, qui n'a pas de passé, en fait. C'est-à-dire qu'avant Hiroshima, mon amour, ce genre de film n'existe tout simplement pas. Et c'est curieux et plutôt positif pour l'héritage de René, que de se dire qu'aujourd'hui, justement, on voit Hiroshima Mon Amour comme une pièce de musée, ça veut dire que son geste s'est pérennisé. Et ça, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à un cinéaste. Et je pense que c'est ça l'angle le plus facile pour rentrer dans ce cinéma-là, parce que moi, personnellement, je le dis, et c'est anecdotique, hein, mais moi, j'ai un problème avec la musicalité des premiers films de René, au sens où, en termes de rythme, en termes d'atmosphère, en termes de façon de déclamer le texte, de construire la narration, moi, c'est quelque chose qui me laisse complètement froid. Ça ne me procure rien.
Mais tu vois tellement à quel point ça fait écho.
C'est que ça ne me procure rien à un niveau strictement émotionnel. Par contre, intellectuellement, c'est passionnant. Et moi, j'ai vécu une expérience très paradoxale, mais très enrichissante avec justement Marianne Bad, que j'ai étudié en long, en large et en travers en école de cinéma. Le premier visionnage du film a été, mais d'une douleur terrible pour moi. Par contre, décortiquer le film scène après scène en cours a été un exercice passionnant, parce que d'un seul coup, toute la dimension, encore une fois, pionnière et inventive et innovante du film m'a sauté à la gueule, et d'un seul coup, c'est devenu vertigineux.
Et puis, on voit surtout l'héritage. Si on va jusqu'au bout, il n'y a pas d'Eyes Wide Shut sans l'année dernière Marianne Bad.
Ça, c'est évident.
Et pour le plus clair, pour le plus évident, je vous enjoins de jeter un œil et effectivement de regarder ça. Ce sont des codes cinématographiques différents. Vous allez voir une forme d'ovni. Moi, je veux remettre une petite pièce dans l'idée de vous dire que, en 1959, personne n'avait osé filmer ce niveau d'érotisme. Vous dire que c'est ce qui fait bouger les lignes et c'est ce qui fait changer les standards. Et quand on est attentif à ça, l'extrême joliesse et l'érotisme latent a gêné les gens, parce que c'est un film qui a fait changer, qui a fait évoluer les mentalités sur la représentation des corps. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on le regarde avec autant d'années de retard. Tu voulais dire quelque chose, Arthur ?
Je voulais revenir sur ce que disait Alexis. Et en fait, c'est pas inintéressant que ça rebondisse à ce que tu viens de dire sur les corps. Parce que moi, par exemple, moi qui n'ai pas étudié le cinéma ou machin, j'ai revu des séquences, parce que j'ai vu le film il y a pas très longtemps, j'ai revu des séquences que je voulais voir. Et j'essayais de comprendre pourquoi je trouvais ça... certaines séquences suffocantes. Et j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Donc je me suis un peu renseigné. Et c'est un certain Val Croze, des Quais du cinéma, qui expliquait que les longs travelling avant qui suivent le personnage sont justement des travelling d'enfermement, parce qu'on a un sentiment d'immobilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est qu'en fait, ce sont des plans séquences resserrés, plus ou moins sur le visage, qui vont à la même vitesse que les personnages qui marchent. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression d'être sur un plan qui les suit, mais de très près, en permanence, et du coup on est bloqué avec eux, et ça emprisonne, ça hante, et c'est devenu une des marques de fabrique de René. J'ai découvert du coup que ça s'appelait le travelling à la René, et que, alors par extension, du coup on ne suit pas vraiment le corps, on suit la pensée. Mais c'est les travelling de René.
Et pour donner une idée de la modernité de cet effet de style, il est quasiment identique, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est presque là à ce que va populariser un certain Darren Aronofsky avec Requiem for a Dream, quand justement, encore une fois, il centralise le corps dans l'image. Et il le suit. Et vraiment, hein, c'est ce film-là qui a fait dire à tout le monde oh, « c'est incroyable, il a l'impression d'avoir vécu dans un clip MTV ».
Ouais, alors que c'était la version pop et un brin vulgaire de ce qui a été fait par René 50 ans avant. Quoi.
Et voilà,
un brin vulgaire.
50 ans avant. Et je reviens encore à ce que je disais, sans déconner, vous aimez District 9, regardez Hiroshima, mon amour.
Exactement la même stratégie narrative. On n'est pas dans les mêmes codes, on n'est pas la même époque. Même stratégie narrative.
Nicolas, il est un truc dans son ego.
Le début, le titre est bourgeois et que ça te fait du mal. Et que ça te fait du mal de réaliser que cette œuvre que tu espérais inaccessible est venue jusqu'au peuple.
Non, excusez-moi, là, juste une différence majeure, c'est que les images d'archives du début d'Hiroshima Mon Amour sont des images d'archives. Ce que vous allez voir devant vos yeux, ce sont
réel.
des populations qui ont été déformées par la bombe nucléaire. C'est la violence qu'il voulait.
Sauf que ça n'est plus vrai pour le spectateur d'aujourd'hui. C'est une image qui a le même statut de fiction. Il peut faire l'effort intellectuel de se dire ce sont de vraies images. Aujourd'hui, elles nous arrivent, à moins qu'on ne choisisse activement comme spectateur de faire ce choix de contextualisation, elle nous arrive avec le même degré de fictionnalisation. Enfin, et je suis désolé de te dire,
c'est
pas
possible.
Non,
c'est,
mais
c'est comme, non, mais c'est, ça reviendra à dire que les images de nuit et brouillard, tu les fictionnalises et que tu peux croire que c'est la réalité.
Non, parce que attention, si. Attention, nuit et brouillard, c'est un court-métrage documentaire. Hiroshima, mon amour, est un long-métrage dont la majeure partie est fictionnelle. Oui, donc si le spectateur se jette dans Hiroshima mon amour sans le savoir, non mais attends,
mais attends, un spectateur qui le regarde sans le savoir ne peut pas savoir que ça n'est pas de l'image documentaire.
Le film ne dit pas. Le film ne dit pas que ce qu'il montre est vrai.
Je veux dire, tu ne peux pas le savoir si tu vois
très bien.
Non, c'est pas vrai, Nicolas. C'est pas vrai.
Alors, c'est pas vrai.
En plus, il y a des extraits du film Hiroshima qui est un film de fiction.
On en est à cet endroit de déculturation débile où on se rend pas compte que
c'est déculturation. Le film est sorti il y a bientôt 70 ans.
C'est normal que quand on revoit ça 70 ans après, on voit bien que ces images-là ne sont pas truquées.
Nicolas, on fait le pari que
ça n'est pas visible.
Nicolas, on fait le pari que toi et moi, nous n'arrivons pas à faire la différence ou qu'on se trompe sur certains plans, sur ce qui vient d'Hiroshima, le film de fiction, et sur ce qui vient des images réelles. Filmé pour Hiroshima, mon amour. Bien sûr que oui.
Non, mais en fait, moi, j'ai une anecdote que j'aimerais partager pour les gens qui nous écoutent. Peut-être, parmi vous, y a-t-il des gens qui ont l'habitude ou qui, en tout cas, sont allés, ne serait-ce que quelques fois, à la Cinémathèque française. Et vous avez peut-être remarqué, souvent au premier rang de la salle Henri Langlois, une vieille femme qui pourrait tout à fait passer inaperçue et qui d'ailleurs, je pense, pour 99% du public passe inaperçue. C'est une vieille dame qui a plus de 90 ans maintenant, les cheveux blancs, courts, avec des petites lunettes et qui est assise sur son siège dans son coin, qui parle quasiment à personne. Cette femme-là, c'est Sylvette Baudreau. Et Sylvette Baudreau, c'est la script d'Hiroshima, mon amour, et c'est surtout la script de l'intégralité de la filmographie d'Alain Resnais. Elle a aussi travaillé avec Jacques Tati, elle a travaillé avec Laurel et Hardy, avec Vincente Minnelli, avec George Stevens ou George Cukor, ou peut-être les deux d'ailleurs. Et je pense que son plus grand fait d'armes restera d'avoir été la script, excusez du peu, d'Alfred Hitchcock sur La main au collet. Voilà, donc vous saurez, la prochaine fois que vous verrez cette dame-là dans les rangs de la Cinémathèque, qu'un jour dans sa vie, elle s'est penchée à l'oreille d'Alfred Hitchcock pour lui dire de refaire une prise.
Et c'est passionnant parce que c'était la script d'Alain Resnais et c'est la seule personne avec Emmanuel Riva et Alain Resnais à être partie pour tourner au Japon.
Oui.
En fait, à l'origine, les équipes devaient être divisées en deux, moitié français, moitié japonais. Ça ne s'est pas du tout passé. Alain Resnais est parti, ils ont tourné en 15 jours. Et avec Sylvette Baudreau qui a fait...
Il faut expliquer, pour les gens qui sont familiers des tournages de cinéma, je pense que vous savez que script, c'est un métier à part entière, mais comme on était dans une économie vraiment, vraiment ric-rac, elle a été à la fois la script de Resnais sur le plateau, son assistante réalisatrice, et la doublure lumière d'Emmanuel Riva, donc je vous laisse imaginer la quantité de travail colossal que cette femme a dû abattre, et elle a une carrière, je vous laisse aller sur Wikipédia, c'est... hallucinant. Et d'ailleurs, la photo sur la page Wikipédia est une photo de Sylvette Baudreau l'année dernière. Donc, elle devait avoir 93 ou 94 ans. Elle devait avoir dans les 90 ans passés, en train de feuilleter le catalogue de la Cinémathèque. Et c'est une photo prise comme ça à la volée, sûrement de quelqu'un qui l'a reconnue, parce qu'elle elle est dans son coin, elle regarde des films. Voilà, donc, il y a un pan entier de l'histoire du cinéma français et international que vous pouvez croiser à la Cinémathèque comme une spectatrice lambda, et je trouve ça magnifique.
Et dites-lui bien que vous l'aimez si vous la croisez. En tout cas, l'année dernière, Marianne Bad, un dernier mot, allez-y.
Non, toujours pas, Hiroshima, mon amour.
Mais c'est parce que j'ai une passion pour elle.
Bah oui, mais je veux bien compris.
J'ai une passion pour elle.
Hiroshima, mon amour, d'Alain Resnais. Est-ce que vous êtes plutôt Hiroshima ou est-ce que vous êtes plutôt Nevers? Never.
Alors, il faut savoir que Never Never, c'est une phrase qui a été prononcée par, et je ne dirais pas laquelle, une immense star du jazz qui a eu pendant des années un grand festival de jazz à Nevers. Et quand cette star a été interviewée par Le Régional, qui est le journal local, on lui dit « Alors, comment c'était le festival ?» Elle a répondu « Never Never ».
Si vous voyez Hiroshima, mon amour, et la dernière Marianne Bad, mais ce sera un autre jour, Never, Nevers, qu'est-ce qu'elle fait à Nevers? Vous comprendrez que c'est une ville importante et en tout cas, je vous envie d'aller découvrir ce film parce que c'est un film, à mon avis, extrêmement, extrêmement fort et extrêmement important, même si ça peut être un film un peu difficile d'approche. On va rallonger un peu la sauce puisque nous allons inaugurer aujourd'hui de nouvelles chroniques. Chaque mardi, en plus de ce film de patrimoine, l'un d'entre nous, autour de la table, va faire une déclaration d'amour. Et puis un jour, mon amour, tu sors de l'éternité.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça suffit, Marguerite, maintenant. Fous-moi la paix. Laisse-moi en tranquille, parce que je suis en lien avec Alex. Excuse-moi. Une déclaration d'amour libre, ça peut être une scène d'un film, une actrice, un acteur, mal ou peu connu ou oublié, un compositeur, une directrice de la photo, un directeur, bref. On va rentrer un peu dans nos cinéphilies respectives pour partager avec vous, pour vous expliquer ce qui nous fait vibrer, ce qui nous a constitué en tant que cinéphile, ce qui nous a fait pleurer, ce qui nous a fait admirer le cinéma. Et aujourd'hui, c'est Simon qui s'y colle pour la première. Simon, tu vas faire quelque chose qui est un exercice pas forcément facile, c'est réhabiliter un film mal aimé, un film sous-coté, un film qui ne mérite pas le mépris qu'on lui a appliqué à sa sortie.
Vous ne le savez vraiment pas. Pourquoi est-ce que les taxes et le prix des choses augmentent le même jour dans les ghettos ? Le coût de la vie ne cesse d'augmenter pour que les gens continuent de mourir. Sinon, comment aurait-on 1 million d'années alors que la majorité vit au jour le jour ? Mais en réalité, il y a bien assez de temps pour tous. Personne ne devrait mourir avant son heure.
Time Out d'Andrew Niccol, sorti en 2011 avec notamment, eh oui, Justin Timberlake. My love, my love, my love.
Oui, c'est, wow. C'est très timide. Okay. Alors, c'est très, très timide.
Simon, pourquoi est-ce qu'il faut redonner ? Pourquoi est-ce qu'il faut réhabiliter Time Out ?
Eh bien, écoutez, je vais faire mon Frédéric Lordon teinté de Bernard Friot. C'est le moment de faire un petit peu, et vous, amis droitards, vous l'apprécierez un petit peu. De théorie marxiste. Qu'est-ce que c'est que ce film ? On est dans un futur, on ne sait pas s'il est proche ou lointain, mais en tout cas, c'est un futur. Un futur dans lequel, eh bien, tout simplement, quand vous naissez, vous avez incorporé dans votre bras une petite horloge qui ne se déclenche pas avant votre majorité. Et à votre majorité, le temps devient de l'argent. C'est-à-dire qu'à votre majorité, en l'occurrence, on est aux États-Unis, donc c'est 21 ans, vous avez un décompte de 21 années qui commence à baisser. Mais par exemple, un café, ça vous fait perdre une semaine. Une coupe de champagne, ça vous fait perdre un mois. Et puis, quand vous faites votre journée à l'usine, vous regagnez quelques heures ou quelques jours, selon votre métier. Et selon votre classe sociale, vous êtes dans une partie de la ville plus ou moins fermée, où vous gagnez plus ou moins d'argent. Et passer d'une sphère à l'autre de cette grande mégalopole vous coûte aussi du pognon. Bah, tout ça donne un film d'Andrew Niccol. Andrew Niccol, c'est assez étonnant. C'est ce réalisateur dont tout le monde a cru qu'il était bon parce qu'il avait fait un mauvais film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca et dont tout le monde pense qu'il est nul parce qu'il a fait Time Out. Et il se trouve que Time Out est un film qui est convenu dans sa mise en scène. Ou même attendu. Vous ne serez jamais surpris par un plan. Vous ne serez jamais surpris par une idée. C'est également un film qui semble convenu dans sa romance, vu qu'il va nous raconter comment Justin Timberlake va rentrer les poils à Amanda Seyfried. Et pour autant, s'il en est qu'il est possible de convoquer Amanda Seyfried et Justin Timberlake, ce qui leur convient n'est pas si convenu. Mais surtout, c'est un film qui a, à mon sens, un mérite gigantesque, énorme et véritablement puissant, quelles que soient ses strictes limites narratives ou l'apparence de ses limites esthétiques. C'est un film qui nous dit une chose: on n'a pas le temps de se révolter. Et pourquoi notre héros Justin Timberlake va-t-il trouver moyen de se révolter ? Bah, il tombe sur un milliardaire, donc qui n'est pas milliardaire en argent, qui est milliardaire en années. Quelqu'un, sur son bras, il est écrit 3000 ans. Et qui est quelqu'un qui vit depuis des siècles. Et qui en a tellement marre, qui tout bourré, avant de se suicider, lui file 3000 ans. Et tout d'un coup, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un prolo qui bosse à l'usine ait 3000 ans. Donc les flics vont venir. Donc lui a intérêt à changer de district. Mais changer de district, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Et en fait, ce que le film montre avec un génie que je trouve éclatant et inégalé, c'est que justement, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se révolter? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à prendre conscience de l'état du capitalisme et de ce que nous fait le capitalisme? C'est parce que quand tu bosses, que tu travailles le matin, qu'il faut emmener tes gamins à l'école, que tu vas travailler, qu'il faut récupérer tes gamins, qu'il faut te faire à bouffer, et puis qu'à un moment la journée s'arrête, bah le temps de cerveau disponible pour se dire « Oh là là, ce système m'oppresse et m'écrase », il est faible. Et ce que nous montre le film, malgré ses limites cinématographiques, c'est quelque chose qui me paraît être un élément nécessaire à attraper conceptuellement et qui nous échappe très souvent, c'est combien notre société actuelle, via son économie du temps, nous interdit de penser l'ailleurs, de penser l'autrement, de penser la révolte, de penser la colère. Et le film met ça précisément en scène parce que l'antagoniste de Justin Timberlake, qui soudain, pour la première fois de sa vie, c'est pas un type qui se rêve depuis des années, c'est pas un type qui, depuis toujours, se dit « un jour je me révolterai ». Il peut le penser parce que soudain, il y a du temps écrit sur son bras. Et en face de lui, il y a un flic qui est pour le coup convaincu que ce système est monstrueux et inique, mais qui n'a pas le temps d'appliquer ce qu'il pense. Et qui va nourrir du ressentiment de voir cet homme-là avoir du temps. Et encore une fois, c'est un film qui a été perçu, je pense, pour partie comme très superficiel, parce que sa mise en scène est très fonctionnelle et ses personnages très attendus, mais qui aussi a mis extrêmement mal à l'aise parce qu'il met le doigt sur un truc qu'on ne dit jamais dans notre système capitaliste, c'est... Pour que certains soient très riches, pour que certains dans le film vivent très longtemps, il faut que beaucoup meurent très jeunes ou meurent très pauvres. Et je pense que c'est un des films les plus intelligents, fins et véritablement tranchants sur ce que c'est que notre système actuel d'économie du temps et d'économie des corps. Et on l'a pris à tort comme une petite dystopie un peu légère. Je pense qu'il est d'une intelligence qui n'a pas fini de nous étonner.
C'est donc Time Out d'Andrew Niccol. Quand je t'entends en parler, je suis globalement assez d'accord avec toi. Ça me fait penser à un autre film qui est Ripomaine de Michel Sapochnik, qui est un très beau film, et un vrai très beau film de cyberpunk, et qui est un très beau film politique aussi, sur comment est-ce qu'on peut continuer à se payer ou non des organes. Et il y a quelque chose où on touche à la science-fiction qu'on aime bien, c'est-à-dire une science-fiction qui met en perspective ce que nous vivons aujourd'hui et ce que la société peut arriver à nous faire subir dans les années à venir. Toujours un mot peut-être, Arthur, sur des films du passé dont tu voulais nous dire une forme de petite déclaration d'amour.
Juste avant de vous parler d'un film qui m'a vraiment impressionné, qui s'appelle « Sois belle et tais-toi » de Seyrig, je voudrais vous parler d'une ressortie de Carlotta, qui fait un cycle Jeanne Moreau cinéaste, parce que Jeanne Moreau, les gens ne le savent pas, mais a réalisé 3 films, un documentaire sur Liliane Guich, un film qui s'appelle « Lumière » sur une bande, une actrice, des amours, des femmes de la quarantaine, c'est assez joli, et un film qui s'appelle « L'adolescente », et « L'adolescente » raconte un coming of age d'une certaine manière dans les années 70 d'une jeune adolescente de 12-13 ans qui part à la campagne pour les vacances, et quand son père part également, elle va tomber en amour d'un docteur interprété par Francis Huster, et qui va devenir l'amant de sa mère. Mais elle tombe amoureuse de lui, elle essaye de lui faire des avances, il lui dit « tu es trop jeune pour moi ». Bref, le film est assez joli, même si même un peu classique, mais assez joli. Cependant, il s'est passé quelque chose qui m'interpelle et je voudrais peut-être qu'on en discute ensemble parce que je ne sais pas comment interpréter cela. On est en 1979, donc on est vraiment dans une période de libération, de la sexualité, etc. Et Jeanne Moreau a ce geste que je pense n'est pas du tout mal intentionné pour elle, de filmer sa jeune actrice qui, à l'époque, devait avoir 12, 13, 14 ans, nue, sur une séquence qui dure bien 1 minute. Et c'est long. Et elle y injecte de la mise en scène parce que ça se passe sur des jeux de miroir, de dézoom, de zoom, de montrer d'abord une hanche avec une certaine lumière. Il n'empêche qu'on voit une jeune actrice de 12, 13, 14 ans, la poitrine dénudée, les fesses dénudées, et qu'elle a un corps qui n'est pas encore un corps de femme, et qui a un corps d'enfant. Et ça m'a vraiment posé la question de... Comment aborder ça? Je ne sais pas comment l'aborder.
Alors, moi, j'ai plein de questions et j'ai pas vu le film et ça m'intéresse. Mais peut-être qu'on peut déjà se poser une question qui est assez récurrente aujourd'hui, qui est celui du female gaze. Est-ce qu'elle montre que le corps d'une jeune fille peut changer pour se sexualiser sans le rendre sexuellement désirable pour la caméra, entre guillemets? Est-ce qu'elle tente juste de montrer un fait, qui est que le corps d'une jeune fille change et se sexualise d'une certaine manière? Ce qui peut être donc du coup quelque chose d'intéressant, sans être pour autant, et je vais mettre des mots un peu particuliers, sexualisant pour le spectateur. Mmh. C'est-à-dire, est-ce qu'elle nous met en position de voyeur, de voyeuriste, de quelqu'un qui va être étrangement attiré
par quelqu'un dont le corps n'est pas encore formé, ou est-ce qu'elle veut juste filmer, parce que c'est quelque chose qui existe, l'évolution du corps d'une jeune fille.
Juste pour recontextualiser, ça se passe après une séquence où elle a ses premières règles, et du coup elle va voir sa grand-mère qui est jouée par Rossignoré, qui lui dit « Mais attends, mais on a ça toute la vie, qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup elle se regarde dans le miroir pour voir son corps qui change.
Bah, moi, quand tu me le racontes, idéologiquement, ça ne me gêne pas.
Moi, j'ai tendance à penser que ça ne me gêne pas. Et surtout je pense qu'on peut mettre ça en regard avec d'autres travaux, et notamment le cinéma de Catherine Breillat, qui, très tôt, dès les années 70, et je pense à 36 fillettes ou à une vraie jeune fille, ne va pas hésiter à les interroger et à les provoquer, parce que c'est sa matière, c'est ce qu'elle veut travailler, la représentation du corps des femmes et du corps des jeunes filles, et même, de manière plus problématique, de l'attirance des jeunes filles pour des hommes plus âgés.
Et j'ajouterais, moi, il me semble que la question n'est pas de quel corps voit-on, comment le voit-on. Encore une fois, le problème au cinéma, je crois, n'est jamais ce qu'on montre, c'est comment on le montre.
Mmh.
C'est-à-dire que, attends, le corps d'une jeune femme, donc d'une jeune femme qui est en cours de puberté ou sur le point d'être pubère, ou d'un jeune homme sur le point d'être pubère, n'est pas quelque chose qui est en soi sale, licencieux, problématique, interdit ou rien. En revanche, poser ce corps comme un objet de désir, un objet désirable et un objet à désirer, pour plein de raisons, ne serait-ce que légales, est interdit. Ça n'est donc pas la même chose. Mais on peut tout à fait imaginer, pour X raisons, que dans un film, dans une pièce de théâtre, dans une œuvre de littérature également, ou dans une bande dessinée, on ait à représenter un corps qui ne soit pas ni un corps adulte, ni un corps de petit enfant. Ça ne veut pas dire que c'est un corps sexualisé. Et donc, et je te dis ça sans avoir vu le film, pour moi, le problème n'est pas posé par l'état, l'âge, la nature du corps qui est montré, mais non pas par comment il est montré, mais par comment il est filmé et regardé.
Le regard qu'il y a dessus, ouais, bien sûr.
Pour ça qu'on parle de film, notamment. C'est ça, je pense que ça dépend vraiment, mais c'est vrai que là, le fait que ce soit une femme qui filme le changement d'un corps d'une jeune fille, et en fait, c'est aussi qu'on est... nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions actuellement sur... c'est bête, hein, mais juste la sexualisation de la poitrine. Mmh. Je veux dire, adulte, adolescente, enfant. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on ne mettait jamais de haut de maillot à des petites filles ou des maillots une pièce. Mais c'est-à-dire qu'il y a une époque où la poitrine soit était trop sexualisée, soit pas assez. Et il y a eu plein de changements sociétaux sur la question. Un corps doit-il être caché, en tout cas sur la partie supérieure, du moment que les seins commencent à pousser ou pas. Enfin, vraiment, c'est des questions qui, à mon avis, peut-être ont même intéressé Jeanne Moreau quand elle a commencé à filmer.
Mais par exemple, pour vous dire, j'avais eu une sensation un peu similaire quand j'avais vu Ava, le premier film de Lamissus, parce qu'il y a une scène où quand le personnage interprété par Noé Habitat comprend qu'elle va perdre la vue, elle se bande les yeux, elle essaye de comprendre comment elle peut vivre dans le monde sans la vision. Et elle va aller nue vers la plage, et je me suis fait « Ouah, mais attends, dans le film, elle est censée avoir 15 ans. » Bon, il se trouve que Noé Habitat en avait 18, donc la question ne se pose pas. Mais déjà, à l'époque, moi, je m'étais posé la question de comment montrer effectivement un corps qui n'est pas forcément sexualisé par la caméra, mais...
Mais il n'y a pas à le montrer, c'est le point de vue de ce personnage. C'est pas un personnage adulte qui te dit genre « Eh, on a eu une petite à poil. »
Je suis d'accord.
C'est pas ça le sujet.
La question, c'est comment toi, en tant que spectateur, tu peux le recevoir. Et moi, c'est pour ça que je voulais vous poser la question, parce que je savais que vous allez pouvoir.
Le spectateur est censé recevoir ce que le ou la cinéaste a mobilisé comme élément de mise en scène, comme élément signifiant. C'est pour ça que la mention du female gaze par Sophie est ultra pertinente, parce que je pense que c'est la clé du problème. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec la notion de female gaze, je vous renvoie à la théorie...
Male gaze, female gaze, voilà. Regard masculin ou masculinisant.
Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit et rien dit en même temps. Donc si vous voulez approfondir...
Oui,
non,
c'est ça que
le,
ça veut dire, techniquement parlant.
Bien sûr. Mais si vous voulez approfondir le concept de regard féminin ou de female gaze, je vous renvoie aux écrits de Laura Mulvey, qui est la théoricienne qui a théorisé le female gaze dans les années 70, si ma mémoire est bonne.
Et peut-être une dernière chose à dire là-dessus, c'est qu'en fait, toutes les subjectivités individuelles sont bienvenues. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de dire... Moi, je ne souhaite pas, je n'ai pas envie ou je ne peux pas regarder un corps de tel âge, de telle époque, de tel moment, homme, femme, garçon, fille. C'est évidemment légitime. C'est une grande différence que de vouloir ou de se demander si on doit le généraliser. C'est-à-dire que, je te dirais, ton interrogation, elle est intéressante, mais la réponse qu'on peut lui apporter ne peut être qu'individuelle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vient de dire, si tu veux, s'il y avait autour de cette table quelqu'un qui disait « Bah non, écoutez, pour moi, être au cinéma et voir... » justement, ce corps pré-pubère ou à peine pubère de jeune fille, pour moi, c'est intolérable, ce ne serait qu'une appréciation personnelle. Et en fait, la seule question qui doit peut-être nous émouvoir et nous inquiéter, c'est quand on passe du personnel à la volonté de prétendre à un universel.
Et de la volonté de l'actrice aussi. C'est-à-dire que on est parti du postulat que l'actrice filmée a été d'accord, que ça s'est fait certainement avec l'accord de ses parents, que on suppose que tout s'est bien passé sur le tournage.
Le
fait est que Laetitia Chauveau n'a pas fait d'autres films et que j'ai essayé de chercher des interviews et qu'elle en a pas.
Oui, mais ça arrive assez communément.
Ce que pointe Sophie est intéressant à tous les niveaux, et d'ailleurs pas uniquement dans un rapport masculin-féminin, parce qu'on sait que, par exemple, sur d'autres films de Catherine Breillat, il y a eu des problèmes avec Caroline Ducey dans Romance, qu'elle a poussé des actrices à faire des choses qu'elles n'avaient pas forcément envie, qu'elles ont regretté d'avoir fait après. Donc ce n'est pas juste un stricto, même si à 95% du temps, c'est globalement un problème de masculin-féminin, ça arrive dans tous les sens. Et c'est évidemment la question du consentement à être filmé, du consentement à la nudité, et effectivement du regard qui est porté sur la scène qui est filmée.
C'est un débat super intéressant.
Marie avait délaissé ses camarades. Son nouveau jeu était d'observer Alexandre. Elle le trouvait absolument magnifique.
Puisque nous sommes dans les films de patrimoine, Arthur, tu voulais nous parler d'un autre film, d'un film réalisé par Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, qui a été tourné en 1975. Pourquoi ce film et pourquoi est-ce que tu veux nous en parler ?
Alors, Delphine Seyrig, dont on vient de parler, puisque si je ne me trompe pas, c'est elle qui joue dans l'année dernière à Marianne Bad.
Absolument.
N'est-ce pas ? Vous avez vu, j'ai bien fait mes devoirs.
Incroyable, ouais, c'est bien.
Pour le coup, Marianne Bad, que j'ai vu il y a peu de temps. Et non, je voulais vous parler de Sois belle et tais-toi, qui ressort chez Capricci, parce que je ne connaissais pas l'existence de ce film. Et je me suis pris ce documentaire qui dure bien 2 heures, avec un parti pris formel très basique, à savoir des interviews, caméra à l'épaule, face cam, basique, d'une bonne vingtaine d'actrices, avec une question posée par Seyrig qui est grosso modo... As-tu déjà vécu une injustice dans cette industrie cinématographique du fait de ton sexe ? Et ça va de Marie Dubois à Jane Fonda, en passant par Maria Schneider, avec notamment un passage concernant Dernier Tango à Paris qui est vraiment pas facile à regarder.
C'est dur ça. Hein
et moi, ce qui m'a sauté...
Rappelons pour ceux qui nous écoutent,
oui, pardon,
Dernier Tango à Paris est un film de 1975 au cours duquel Maria Schneider, pour, et je mets d'énormes guillemets, le bien du film, a été violée par le comédien principal Marlon Brando, avec l'aval de son réalisateur.
C'est d'ailleurs pour ça
face à la caméra.
Oui,
et c'est dans le film. C'est pour ça que je ne veux pas regarder ce film, je pense que je n'y arriverai pas.
Pareil.
Mais du coup, moi, ce qui me saute aux yeux avec Sois belle et tais-toi, c'est que c'est assez effrayant de se rendre compte qu'il y a déjà 40, 45, 50 ans, les femmes avaient déjà ce recul-là sur le sexisme qu'elles vivaient, le patriarcat d'Hollywood et les violences des cinéastes hommes vis-à-vis d'elles, des problèmes d'écriture, des rôles féminins qu'on leur propose, et le fait qu'en fait, elles se rendent compte qu'elles n'ont quasiment jamais joué des rôles qu'elles avaient envie de jouer, et qu'elles ont subi une écriture assez désastreuse, qui va aller chercher de l'hystérie ou de la faiblesse, et que quand elles vont essayer de se rebeller, ou quand elles vont essayer de parler salaire, ou quand elles vont essayer de signifier ce problème-là, elles vont souvent se faire envoyer bouler. Bref, c'est un film qui sort en salle, et c'est assez beau pour en tout cas en parler, même si ce sont des sujets qui sont maintenant évoqués depuis quelques années, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et tout un certain mouvement. C'est quand même assez dingue de se dire qu'il y a 40-45 ans, il y avait déjà un documentaire qui pointait déjà tout ça du doigt, et de manière aussi frontale.
Oui, et puis pas seulement dans le cinéma français, hein, je veux dire, Shirley MacLaine, Hélène Burstyn, Jane Fonda, qui racontent tout ça face caméra, quoi.
Et peut-être un petit truc à dire sur ce à quoi ressemble le film, parce que c'est un truc assez incroyable. Vous savez, quand on vous parle de cinéma numérique par rapport au cinéma en pellicule ou de cinéma en vidéo à partir des années 90, quand littéralement, encore une fois, on arrête d'utiliser la pellicule, eh bien, il se trouve que Delphine Seyrig était quand même un peu curieuse d'innover et de tenter des trucs. C'est donc un film des années 70 en vidéo. C'est un film tourné en noir et blanc avec une des toutes premières caméras vidéo au monde. Et en fait, c'est un type d'image
qui
n'existera pas après ce film-là. Littéralement, c'est un des seuls films qui a été fait avec cette technologie-là.
Ce qui est assez intéressant, c'est que la copie que vous allez voir n'a pas pu être entièrement retravaillée parce qu'il y a des sections d'interviews
qui sont trop abîmés, où il y a du doublage par-dessus qu'ils n'ont pas pu enlever.
Mais parce que ce sont c'est des fichiers numériques brut, trop basiques pour être retouchés, ouais, retravaillés. Et vous allez voir, c'est une espèce de type d'image, de qualité d'image, qui est pas, et c'est pas une question de il y a telle définition ou pas telle définition, mais qui véritablement n'existe plus et n'a existé qu'à un instant très précis du cinéma. Ça ressemble à de la peinture. On a l'impression véritablement de voir de la peinture à l'eau en noir et blanc. C'est très très étonnant et c'est un des seuls films dans l'histoire du cinéma qui témoigne de ce petit momentum technique. Si vous êtes un peu passionné d'images et de photographie, il faut absolument voir le film.
Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont pour la plupart des hommes.
Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Bah, il n'aimait pas des femmes avec des petit sein. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial.
Si je tourne avec des hommes partenaires, tournez au moins qu'ils soient de mon âge, qu'ils soient plus, tu vois, vrai, même Nicholson c'est mieux que Brando, mais c'est pas ça. Il a 40 ans, presque, presque, 23.
Une fois n'est pas coutume, moi je vais faire un peu pareil que mes camarades. Je voulais vous parler d'un film qui est vraiment extrêmement important dans ma cinéphilie. Je vous en parlais dans l'épisode précédent. C'est, alors personnellement, de manière un peu historique...
Avatar 2.
Pas du tout, ça c'est plus récent.
La blague, est-ce que c'est trop tard pour cette blague?
Non, ça marche.
Ça commence, là.
Ça commence un peu.
C'est un traumatisme, mais beaucoup plus tôt au lycée, c'est il y a bien plus longtemps. Pour la petite histoire, c'était assez amusant parce que c'est un film que j'ai vu pour la première fois pendant mon cours d'espagnol parce que j'avais une professeure extraordinaire mais qui avait... un défaut majeur qui est celui de Simon, c'est qu'elle était alcoolique. Mais vraiment, ce qui était amusant, c'est que en fait, il y a des matins où elle arrivait et en fait, elle était vraiment. Je pense qu'elle avait peu dormi. Elle arrivait vraiment. Elle empestait l'alcool et elle avait pas du tout envie de faire classe.
Mais donc c'était quoi son défaut?
Et donc, du coup, elle nous mettait des films.
Ah, d'accordo.
Et elle nous mettait des films, et donc, moi, j'étais, voilà, je pense que j'ai vu ça en première. Et elle nous mettait des films, elle nous mettait les premiers Almodovar. Mais les premiers Almodovar, il faut se souvenir que c'est Matador, ouais, qu'on a 15-16 ans. C'est quand même un film hyper sexuel, hyper violent. C'est pas des films faciles à voir quand t'es adolescent.
C'est ce qu'on appelle la movida, ouais, qui est le post-franquisme, c'est-à-dire que on sort de la dictature en Espagne. Exactement. Et c'est un cinéma qui rue dans les brancards et qui est incroyablement violent, sensuel et sexuel dans son imagerie.
Absolument. Donc on voit Matador, on voit Femme au bord de la crise de nerfs, on voit ce cinéma-là hyper queer déjà aussi. Enfin, je veux dire.
À noter que si ça vous intéresse, Matador vient de ressortir dans une nouvelle version en DVD chez Tamasa.
Regardez ça, c'est l'un des premiers rôles d'Antonio Banderas, absolument incroyable, sexualisé. Comme le sont les toréadors. Je vous laisse découvrir Matador, qui est un très très beau film. Bref, dans ces séances de cours d'espagnol, ma professeure nous montre d'autres films, pas seulement ceux d'Almodovar, puisque donc évidemment c'est dans les années 90, enfin, à la fin des années 80, début des années 90, et celui d'un grand réalisateur qui vient de disparaître, qui s'appelle Carlos Saura. Carlos Saura, c'est un cinéaste essentiel en Espagne. C'est un cinéaste qui a traversé vraiment... 3 ou 4 décennies de cinéma espagnol qui a traversé le franquisme. Il faut vous rappeler que l'Espagne est une dictature jusqu'en 1975. Franco meurt en 75, il meurt au pouvoir et l'Espagne est une dictature fasciste jusqu'à il y a très peu de temps, donc jusqu'à il y a une cinquantaine d'années. Et Carlos Saura va commencer son cinéma comme beaucoup de gens. Alors évidemment, à la fin de la dictature, Franco était plus souple. Hein, c'est ce qui se passait au Chili avec Pinochet beaucoup plus tard. Mais des dictas blandes, des dictas molles, c'est-à-dire des espèces de dictatures avec des retours progressifs d'une forme de pouvoir civil. Et du coup, évidemment, les artistes s'en emparent après avoir vécu des années de censure, des années d'interdiction. Et en fait, moi, je voulais vous parler de ce film, puisque donc Franco meurt en 75 au pouvoir. Et un an après... sort ce film qui s'appelle Cría Cuervos. Cría Cuervos, c'est un film qui raconte un été à Madrid dans une famille bourgeoise dont le père est militaire, franquiste, et qui va raconter en creux précisément la fin de la dictature et à quel point ce pouvoir militaire a fait du mal à toutes les strates de la société. C'est un film extraordinairement joli, d'une mélancolie à fleur de peau, avec une toute jeune actrice qui s'appelle Anna Torren, que vous allez pouvoir revoir et retrouver, qui va être notamment réalisé par Amenabar et dans TSIS, bref, qui est un visage qui vous est familier. Et pourquoi, comment vous dire que ce film a été à ce point-là essentiel ? Parce que si vous voyez ça aujourd'hui, vous allez voir un film, effectivement, qui parle d'un état passé de la société et qui peut peut-être moins vous toucher ou moins vous bouleverser. Et pour autant, ce film-là est invraisemblable de modernité et d'anticipation. Encore une fois, on est dans un pays qui vient de sortir d'une dictature fasciste et qui va vous raconter, qui est un film essentiellement féminin. C'est-à-dire qu'on va suivre cette petite fille, sa sœur aînée, et sa mère, qui est morte, qui est interprétée par Géraldine Chaplin et qui va intervenir dans des flashbacks et qui sera également le visage de cette petite fille une fois qu'elle a grandi. Elle joue les deux rôles. Cria cuervos en espagnol, c'est l'abréviation d'une expression qui dit Cria cuervos y te sacarán los ojos. Si tu élèves des corbeaux, ils vont t'arracher les yeux. C'est ce qui dit d'une certaine forme l'ingratitude des enfants à qui on donne tout. Et pourtant, ces enfants, ce sont ceux qui vont commencer à casser et à tordre cette société fasciste de laquelle ils sortent. Et avec une chanson majeure et qui va être la marque de ce film, qui est Porque te vas de Janes. Oui, bon, on est obligé d'écouter un extrait.
Quiero que te mueras.
Anna, ¿cómo puedes decir eso? Anna.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Vraiment, les camarades, jetez un œil à Cria cuervos parce que c'est exactement tout ce qui va bien. Sophie, maintenant qu'on sait que nous avons un lien, tu vas adorer Cria cuervos parce que ça raconte, c'est à la fois un film politique, c'est à la fois un film de qu'est-ce que c'est que d'être une petite fille dans cette société fasciste et quelle est la place du corps d'une petite fille dans cette société fasciste. C'est un film qui entrecoupe la grande et la petite histoire sans être un film programmatique. C'est un film d'une mélancolie à crever. Géraldine Chaplin est belle et mélancolique à mort. C'est un film qui dit que quand on est différent dans une société fasciste, quand on est une femme, on est hystérique et on va finir par se faire tuer par le système de
J'ai
manière
très,
même indirecte.
J'ai très envie de le voir, tu l'as très bien vendu.
Et malgré tout, ça reste un été qui passe dans cette famille bourgeoise avec cette petite fille et qui va reprendre à la rentrée et qui va continuer la vie parce que, eh bien, une fois que la dictature a tombé, la vie, malgré tout, continue et il faut continuer à se construire et à faire société. Vraiment, voyez Cria cuervos, c'est un film mélancolique, incroyablement lumineux. Voilà, dites-nous et dites-moi, je serais ravi de savoir que vous l'avez vu. Voilà, de savoir ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un film qui a vraiment été vraiment une clé dans ma cinéphilie. Carlos Saurin est un auteur, à mon avis, très, très sous-estimé en France, alors que c'est un auteur majeur en Espagne. Il a fait d'autres films, Anna et les loups, Mama en 100 ans, enfin, d'autres films absolument majeurs pour l'histoire du cinéma. Encore une fois, il devait recevoir un Goya pour l'ensemble de sa carrière. Il est mort la veille. C'est quelqu'un qui a l'importance dans le cinéma espagnol et qui est l'un des derniers grands cinéastes. On parlait des réalisateurs de la Nouvelle Vague, mais c'est l'importance que Carlos Saura a pour le réalisateur espagnol. Je vous laisse aller voir Cria cuervos et nous raconter ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt Porque te vas de Janet ou My Love de Justin Timberlake? Nous, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode de Réaliser sans trucage. On vous parlera notamment du nouveau Spielberg, de Fablemans. Ce sera la critique en 30 secondes. Ce sera la critique en 30 secondes d'Alexis, mais il ne le sait pas encore. Et quelle tête va-t-il faire quand il va le découvrir?
Vous le découvrirez
la semaine prochaine. Allez, bye les amis et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.